La grâce de notre Seigneur vous soit rendue au nom de Jésus. Amen. La parole de Jésus vient du texte de 2 Corinthiens, le chapitre 9. Nous allons lire en partie du verset 6 jusqu'au verset 15. 2 Corinthiens, le chapitre 9, 615, dans la version Louis II. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours et toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins d'un saint, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont il faut l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile du Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Levons-nous pour la prière. Seigneur, ce sont ta parole, écrite en 2 Corinthiens, chapitre 9, que Paul adresse aux Corinthiens, mais il s'adresse à nous aussi ce matin. Nous voulons écouter ce que tu veux nous dire cet avant-midi. Et quel honneur te soit rendu. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous. Et la parole d'aujourd'hui, en nous parlant de l'Église et les offrandes. Et ce texte va nous aider à tirer les attitudes du disciple de Christ. Les offrandes dans une paroisse locale comme Gomaville. Quelles sont les attitudes que nous devons développer? Alors, il y a un verset de mémoire. Nos amis de médias mettaient le verset 7. Nous allons le réciter. Et ça sera notre verset de mémoire cette semaine. Le verset 7. Il faut que nous ayons une même version. C'est lisible, hein? Alors, on y va. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, si j'étais à l'école de dimanche, j'allais demander qu'on efface et on reprend les yeux fermés. Mais on reprend encore. Laissez ça au tableau. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce texte est écrit dans un contexte où il fallait collecter de biens pour des pauvres, pour des vénérables qui sont à Jérusalem. Alors quelque chose de particulier est arrivé, c'est que les plus pauvres, les Macédoniens, ont donné plus. Les plus pauvres. ceux de Philippe, de Thessalonique, de Bérée, qui sont très, très, très attaqués par les Juifs à cause de leur foi, ont donné plus, ont donné avant les Corinthiens. Et pas n'importe quoi, ils ont donné plus. C'était donc frappant. Et Paul était très étonné. Non seulement ils ont donné, mais ils ont insisté qu'ils veulent donner. Ils ont demandé qu'on ne peut pas finir la collecte si nous n'avons pas encore apporté notre contribution. Alors cela a beaucoup frappé Paul. Il était étonné que les pauvres puissent donner. Et au chapitre 8, le verset 3, Paul écrit qu'ils ont donné au-delà de leurs possibilités. Ces gens ont donné au-delà de leurs possibilités. Cette attitude est une preuve qu'en réalité, nous avons quelque chose à donner. Donner pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une affaire de riches. C'est une affaire de tout le monde. Nous sommes quand même riches de quelque chose et nous pouvons donner. Ce texte est très important pour nous qui vivons un contexte difficile. Hein? Nous sommes dans une situation difficile. On ne peut pas l'expliquer, chacun peut l'expliquer. Mais nous ne sommes pas différents des Macédoniens. Je sais que si on nous demande de donner, nous pouvons prendre notre situation comme excuse et dire, nous n'allons pas donner parce que nous sommes à guerre. Le M23 a déjà fermé toutes les routes et donc n'attendait rien de ceux qui sont à Goma. Dans les cultes d'enclés aujourd'hui, l'écosystème nous a demandé de lire Exode chapitre 35, là où le Seigneur a demandé à un peuple de donner alors qu'ils sont dans le désert. Et il ne les a pas demandé de donner n'importe quoi, parce qu'ils devraient construire le temple, le tabernacle. Ils devraient donner de l'or, de l'argent, du bronze, des pierres précieuses. Quand on lit ce verset, on se pose la question, est-ce que le Seigneur sait qu'il s'adresse aux pauvres, aux gens dans le désert? Mais le Seigneur ne demande jamais ce que tu n'as pas. Il savait, quand tu lis Exode chapitre 12, le verset 35, les jours où ils sont sortis d'Égypte, ils ont demandé de l'or aux Égyptiens, de l'argent et du bronze et des habits. Et donc le Seigneur savait qu'ils avaient de l'or. Il les a demandé de donner de l'or, parce qu'il ne peut pas demander ce que tu n'as pas. Et puis de deux, quand tu lis au chapitre 32 d'Exode, ces gens-là avaient déjà donné de l'or pour se fabriquer une idole. Alors, pour se fabriquer une idole, ils ont amené beaucoup d'or. À combien pour votre réseau, ils ne peuvent pas donner de l'or pour construire le temple, le tabernacle, là où le Dieu vivant va rester au milieu d'eux. Et donc, ils ont demandé de donner de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, parce qu'ils vont construire le temple. Et donc, les Macédoniens posent un acte très étonnant. Et Paul trouve qu'il faut se baser sur ça pour sensibiliser les Corinthiens que si les Macédoniens ont déjà donné, il faut que vous puissiez donner. Mais il prend une position d'humilité, il ne veut pas les forcer. Il veut susciter en eux ces quatre attitudes que nous allons partager ce matin. La première attitude, il dit, donnez comme vous avez résolu dans votre cœur. La deuxième, il dit, donnez sans tristesse. La troisième, il dit, donnez sans contrainte. Et la quatrième, il dit, donnez avec joie. C'est ça le verset de mémoire. Hein? Nous donnons comme nous avons résolu dans nos cœurs. Nous donnons sans tristesse, nous donnons sans contrainte et nous donnons avec joie. Ces éléments-là sont très importants pour nous qui vivons à Goma aujourd'hui. Alors, donnez comme vous avez résolu en votre cœur, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Ça signifie quoi? Ça signifie que donner, c'est une décision. On ne donne pas au hasard, sans planifier. On donne parce que on s'est mis, on a réfléchi, on a calculé, et alors à la fin, on a pris la décision pour dire, je donne. Je donne combien? Je donne autant. Comme vous avez résolu dans votre cœur. Et j'espère que nous, de Goma Ville, nous avons une grâce particulière parce que c'est ce qu'on nous demande toujours. À la fin de notre assemblée paroissiale, on fait ce qu'on appelle la souscription. Et on demande, on donne même une semaine. On dit, prenez le papier, allez à la maison, allez discuter à la maison, réfléchissez, dites-nous ce que vous allez donner. Et le dimanche prochain, on écrit un montant selon ce qu'on a résolu dans son cœur. Alors, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. On peut se poser la question, vous êtes à quel niveau avec ce que vous avez résolu de donner à Goma Ville? Il nous reste combien de jours? 90 jours. Et ce que vous avez résolu de donner en votre cœur, est-ce que vous êtes à un certain niveau? Ou vous allez vous excuser parce que la situation est grave? Ou vous allez agir comme les Macédoniens qui peuvent donner au-delà de leur capacité? Goma Ville, donc, a fait ça, ce que vous avez résolu. Si cette lettre serait adressée à nous aujourd'hui, Paul allait demander à chacun de se rappeler de ce qu'il a résolu de donner dans son cœur. Il allait ajouter aussi, à chaque fois que la corbeille passe, il ne faut pas donner un montant non planifié. Il faut venir à l'église avec une planification et que vous le sachiez bien avant d'entrer ici. Résolu dans votre cœur combien vous allez donner. Il dit que c'est de cette manière-là qu'on doit le faire dans les cultes. Un culte planifié comme aujourd'hui, on ne doit pas donner un montant non planifié. Là où on ne sait pas si est mis pour dire dimanche le 1er octobre, je vais donner ceci. Donc, planifiez ce que vous donnez au Seigneur. Donnez comme vous avez résolu dans votre cœur. La deuxième attitude est aussi très importante. Donnez sans tristesse. Je rappelle le verset. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse. Cela veut dire sans regret. Il y en a ceux qui regrettent avant de donner ou ils regrettent après avoir donné. Le verset nous dit non, il ne faut pas regretter avant. Il dit, je donne, mais je regrette. Ou j'ai déjà donné. Vraiment, je regrette. Ce verset-là nous défend de faire des choses comme ça. C'est lamenter avant de donner les offrandes ou après avoir donné les offrandes. Alors, Paul, quand vous lisez le verset 6, il nous donne le modèle du semeur. Je ne sais pas si nous avons des agriculteurs au milieu de nous ou ceux qui ont été agriculteurs. Un semeur, quand il sème, est-ce qu'il peut regretter? Parce que le Seigneur dit que ce qu'il nous a donné, c'est la semence. C'est ce que dit le texte. Tout ce que vous avez, c'est la semence, s'il vous plaît. Les maisons, les voitures, l'argent, les boutiques et quoi? Les diplômes, c'est la semence. Le Seigneur voudrait que vous puissiez semer cela en donnant quelque chose. Bon, alors, quelqu'un a 10 hectares et il sème du riz, du maïs, du cacao et quoi encore? Des arachides et des haricots. Et puis vous l'attendez de me dire, en tout cas, je regrette parce que j'ai semé. C'est possible? On peut regretter parce qu'on a semé? On ne peut pas.
Il faut s'aimer comme l'agriculteur. Et après avoir semé, on sème avec l'espoir de récolter. C'est donc aberrant de regretter après avoir donné. Si quelqu'un regrette parce qu'il a donné, il n'est pas semblable à celui qui est écrit au verset 6. Nous sommes des agriculteurs et nous sèmons. Et après avoir semé, il faut se réjouir parce qu'on attend la récolte. Alors donc la question vient là en fait. La question est de savoir pourquoi les gens regrettent après avoir semé. Il y a deux raisons qui font que les gens regrettent après avoir semé. La première raison, c'est la cupidité. Nous sommes naturellement cupides. C'est-à-dire, nous voulons avoir, avoir, additionner, additionner, additionner. Nous ne voulons pas soustraire. Nous voulons avoir de l'argent. Cette avidité-là d'avoir, de gagner, d'accumuler, c'est la cupidité. Et c'est le contraire de donner. Un cupide ne peut pas donner, parce que donner signifie soustraire. Or, le cupide veut avoir et avoir, additionner et additionner. Alors, lorsque vous lui demandez de donner, il regrette. Il donne avec tristesse. Il n'est pas prêt à donner, parce qu'il voudrait qu'on ajoute plutôt. C'est ça, c'est ça. Et le Seigneur nous a rappelé qu'il y a un Dieu qu'on appelle Mammon. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 6, le 23-24, il a dit, il est difficile de servir à la fois Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu d'argent. Le Dieu qui vous dit, ayez, ayez, accumulez, ajoutez, ajoutez, ajoutez chaque jour. Jamais Mammon ne va vous demander de donner. C'est ça Mammon, le cupide. Il vous demande d'avoir, d'avoir et d'avoir et d'avoir. Il vous montre vos besoins. Il dit, voyez, vous avez encore 1, 2, 3, 4, 5 besoins que vous n'avez pas encore répondu. Comment vous allez donner alors que vous n'avez pas encore répondu à vos propres besoins? C'est ça Mammon au milieu de nous. Et donc, il ne va pas vous permettre de donner. Or, donner ne signifie pas que vous n'avez pas de besoins. Donner signifie vous vous sacrifiez. Tout en voyant les besoins que vous n'avez pas encore couverts, vous prenez la position de vous sacrifier et de donner. Là, vous aurez fait quelque chose et Mammon va s'étonner et il va fuir. Si vous voulez que Mammon fuit dans votre vie, il faut faire quoi? Il faut donner. Si vous voulez qu'il reste dans votre vie, il faut donner avec tristesse. C'est ce qu'il nous en prend chaque jour. Donner sa tristesse. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la peur. La peur du lendemain. Si je donne aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger demain? Comment je vais payer le loyer? Comment je vais payer les frais académiques? La peur du lendemain nous empêche et nous empêchera toujours de donner. Et c'est encore ce que Mammon fait. Mammon vous aide à mettre la confiance dans ce que vous avez, dans l'argent que vous avez, dans les biens que vous avez. Vous avez confiance, vous avez votre sécurité là. Et vous perdez l'occasion de mettre votre sécurité en Dieu lui-même. Donc, si ces biens-là ne sont plus là, vous êtes en insécurité. Une grande insécurité. Et donc, il faut apprendre à chercher Dieu et à mettre votre confiance à lui et la sécurité à lui. Et Mammon va fuir. Mais s'il reste autour de vous, si l'argent vous enveloppe, l'argent va vous apprendre que c'est moi ta sécurité. Si je ne suis pas là, tu n'auras pas à faire. Tu ne vas pas vivre. Et donc, vous allez, à chaque fois qu'on vous demande de donner, vous donnerez avec tristesse. Donc, le secret est celui-ci. Si vous voulez donner sa tristesse, il faut vous débarrasser de Mammon. Il faut donner. Il faut donner encore. Il faut donner encore. Et celui-là qui pense que vous devez mettre votre sécurité dans ce que vous avez, va fuir. et vous serez capable de donner sans tristesse. Donner sans contrainte, c'est ça la troisième attitude. Que chacun donne comme il a résolu à ce cœur, sans tristesse ni contrainte. Donner sans contrainte, cela veut dire vous donner sans pression. Vous donnez sans pression. On ne vous contraint pas de donner. On ne vous pousse pas à donner. On ne fait pas une prédication qui vous fait peur et à la fin, vous dites, ah, ah, je vais donner. Oui, une prédication qui dit, bon, ceux qui ne vont pas donner iront en affaire dans le feu éternel. Où ils seront maudits. Aujourd'hui, quand vous revenez ici dimanche, vous verrez ceux qui n'ont pas donné, seront maudits. Alors vous dites, je donne. Là, vous avez donné, c'est vrai. Mais vous avez donné comment? Sous pression, sous contrainte, sous obligation. Il y a des gens qui sont arrivés même à faire une grande manipulation pour que 1 000 francs puissent tomber de la poche de quelqu'un. Non, 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 non. Je crois qu'on ne m'a pas envoyé ici pour faire cette pression ici. Non, on m'a demandé de vous dire, donnez selon ce que vous avez résolu dans votre cœur. Donnez sans tristesse. Donnez sans contrainte. On voudrait que la paroisse de Gomaville arrive à ce niveau-là. De donner sans une prédication qui vous presse pour avoir 1 dollar. Quand est-ce qu'on arrivera à ce niveau-là? Il nous reste 3 mois. Est-ce qu'il est possible de développer cette attitude en mois d'octobre, novembre et décembre? Diacre, nos amis, nos responsables diaconiques, on va évaluer le 31 décembre. Si les gens ont commencé à apprendre des données sans pression, ou s'il faut un plan de pression pour que nous puissions commencer à donner. Nous voulons une paroisse où les gens donnent sans pression. Comme ça, vous êtes calme, vous donnez, vous réfléchissez et vous décidez. Ça, je donne à Dieu. Il y en a d'autres qui donnent sous pression cachée. Et la parole de Dieu nous donne le modèle d'Ananias. Ananias, nous lisons Ananias en Actes des Apôtres. Ananias a vu déjà aller vendre leur terrain, leur maison, et ils amènent l'argent. Il a dit, il faut que moi aussi j'apparaisse. Il donne pour apparaître publiquement, comme Ananias. Et vous savez ce qui est arrivé à ce frère et à sa femme. On vient donner, mais sous pression, parce que je risque de rester seul sur ma chaise quand les autres sont debout. Sous pression, caché, on vient donner. Là aussi, on ne veut pas que nous soyons membres de cette paroisse avec cette attitude de donner sous pression, caché. Donner avec un cœur calme, résolu, parce que vous venez donner au Seigneur. On ne peut pas honorer le Seigneur par des offrandes données sous pression. On ne peut pas honorer le Seigneur par des offrandes sous pression. Donner librement. Donner avec joie. C'est la dernière attitude. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le terme joie est difficile à expliquer, mais heureusement que vous avez déjà été joyeux un jour. Donc, vous connaissez ce que c'est la joie. Et donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'expliquer. Mais la parole nous recommande de donner avec joie. À chaque fois que nous passons devant les corbeilles ici, il faut sentir que votre cœur a la joie quand vous donnez. L'apôtre Paul, en écrivant en Actes chapitre 20, le verset 35, il a dit que le Seigneur a repris en disant que il y a beaucoup plus de bonheur en donnant qu'en recevant. D'autres versions peuvent dire il y a beaucoup plus de joie en donnant qu'en recevant. Je ne sais pas si c'est votre expérience. Il y a un jour où vous avez déjà donné et il y a un jour où vous avez déjà reçu. Essayez de comparer ces deux joies. La joie de donner et la joie de recevoir. Essayez d'être honnête devant Dieu. Nous, Congolais, on se comporte comment? Est-ce qu'on est joyeux quand on donne ou quand on reçoit? Quand on reçoit. On fait le contraire de ce verset. Hein? Oui, je sais que si on demande aux Congolais de méditer ce verset, ils risquent de dire, je crois que le Seigneur s'est trompé. Comment on peut avoir la joie en donnant? Parce que nous sommes habitués d'avoir la joie en recevant. Quand on donne, je ne sais pas ce qui se passe dans nos cœurs à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Est-ce qu'il y a la joie quand on donne? En fait, il y a un pasteur que vous connaissez, si je cite son nom. Il était très étonné un jour, quand il vivait en Europe, il a pris un collègue pasteur dans sa voiture. Ils sont partis pendant plus de 50 kilomètres. Et quand son collègue pasteur descend de la voiture, il paye. Il dit que c'était un grand débat avec lui parce que il l'a pris dans la voiture. Ils vont à un culte et ils ne devront pas prendre deux voitures pour aller à une même destination. Et ce pasteur dit, je dois payer. Et lui dit, tu ne dois pas payer. Je dois payer, tu ne dois pas payer. Une longue discussion. Et après, il trouve que finalement, il faut qu'il accepte qu'il paye. Dans d'autres cultures, recevoir, c'est humiliant. N'est-ce pas? Oui. Recevoir, c'est humiliant. On n'a pas la joie de recevoir. Parce qu'on est dans une position d'humiliation. On a la joie quand on donne. Et c'est très contraire de nous ici. On a la joie quand on reçoit. Quand on vous demande de donner, on a... Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça tristesse ou quoi. Mais c'est une sorte de tristesse. Et s'il y a que ce qui se passe dans son cœur lorsqu'il donne. Alors la parole de Dieu nous dit non. On ne doit pas continuer comme ça. Il faut développer l'attitude de réjouissance quand on donne. Cette parole veut nous dire que les moments des offrandes devraient être les moments les plus joyeux et que les gens donnent avec joie. Il ne faut pas rendre les moments des offrandes des moments de tristesse. On dit, ça, ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures et aux textes que nous avons lus au 2e Corinthiens. Lorsque vous donnez, donnez avec joie. Alors, quelqu'un peut se poser la question, mais cette joie vient d'où? Vous savez, nous ne sommes pas des robots. On ne peut pas vous dire, soyez joyeux, alors vous êtes joyeux. Soyez triste et vous êtes triste. Non. C'est-à-dire, il doit y avoir une source. Une source qui ne tarit pas. Qui crée en nous toujours la joie. Et cette source-là, c'est notre salut. Nous donnons par action de grâce. Nous remercions celui qui nous a sauvés. Lorsque cette source-là n'est pas dans votre cœur, vous aurez des difficultés de vous. Quand on s'élève, on se rappelle que si je ne veux pas être sauvé, je ne serai pas dans ce temple. Alors on se rappelle, on se réveille, on se relève avec cette joie du salut. On donne des actions de grâce parce que quelqu'un a donné. Vous avez bien lu le verset 15. Un don ineffable. C'est un français difficile, hein? Un don qui n'a pas de fin que Dieu a donné. Le don de son Fils. Le don de Jésus-Christ. Devant ce don-là, nous qui avons reçu la grâce imméritée, sans mérite, il faut que quand on s'élève, le Seigneur a regardé dans nos cœurs, il y voit la joie. Parce que nous répondons à ses dons. Ceux qui connaissent le cantique 35 de Kiswahili, ça reprend, on l'a toujours chanté ici, il dit, Sitasahau Getsemane, Sitasahau Musalaba, Sitasahau Pembe, Sitasahau. On n'est pas permis d'oublier. Il n'y a aucune permission. Personne n'a la permission d'oublier. Hatutasahau. Et à chaque fois que nous nous levons, nous nous levons avec ce rappel dans nos cœurs. Et c'est ce qui crée la joie. Le Seigneur n'avait pas permis au peuple d'Israël d'oublier le salut qu'ils ont eu. Si vous lisez Exode chapitre 13, le verset 3, il dit, n'oubliez pas que c'est par ma force que je vous ai tiré de la main dure de Pharaon. N'oubliez pas. Et nous aussi, nous ne sommes pas permis d'oublier. Si tu commences à oublier, tu vas t'élever avec tristesse. Tu vas donner avec pression. Tu vas donner à des ordres sans planifier. Et le Seigneur ne sera pas content de te voir comment tu donnes les offrandes de cette manière-là. On reprend le verset de mémoire et ça sera la fin. Je crois que si vous étiez les enfants, les parents allaient rappeler ce verset de mémoire à chacun de nous. De Corinthiens chapitre 9, le verset 7, et nous les lisons à la fin. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen.